Le mot « Genèse » et « Exode » font partie du langage courant et ne sont donc pas inconnus du grand public. Ce sont-ci les titres des deux premiers livres écrits par Moïse. Par contre, le troisième a un nom qui nous est bien moins familier, puisqu'il s'appelle le Lévitique. C'est le troisième des cinq livres composant la loi de Moïse, aussi appelée le Pentateuque. Elle était divisée en 54 sections pour la lecture dans la synagogue. Le Lévitique en contient 10 sur les 54. Les anciens juifs appelaient ce livre le Code des sacrificateurs ou la loi des offrandes. Plus tard, les juifs lui donnent le nom du premier mot du livre, Vayikra, qui signifie « et appela ». Le titre français vient de la version grecque des Septante, à strictement parler. Il est inexact puisqu'il n'est question des Lévites qu'une seule fois. Cependant, dans un sens général, ce titre est approprié, car les prêtres ou sacrificateurs que concerne ce livre sont des Lévites. Le titre « et appela » est un mot intéressant, parce qu'il a pratiquement la même signification que le terme « église », qui provient du grec « ecclésia », qui est le mot pour « assemblée », mais qui veut littéralement dire « appeler hors de ». Dans le Nouveau Testament, « ecclésia », « église », désigne soit la totalité des croyants chrétiens, soit ceux d'un lieu géographique précis. Tout ça pour dire qu'il existe une certaine similarité entre l'enseignement contenu dans le Lévitique, qui concerne les Israélites, et la foi chrétienne qui s'adresse au monde entier. Cependant, le contraste entre l'Évangile et le livre du Lévitique est saisissant. Alors que le premier révèle le Dieu Tout-Puissant en chair et en os, en la personne de Jésus, le livre du Lévitique énonce les règles complexes exigeante et inefficace de la loi de Moïse qui devrait préparer les Israélites à recevoir leur Messie. Je lis quelques passages du Nouveau Testament. L'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats, tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, la réalité est en Christ. Les prêtres sont au service d'un sanctuaire qui n'est qu'une image, que l'ombre du sanctuaire céleste. La loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir et non pas l'image même de cette réalité. Elle ne peut donc, en aucun cas, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Au travers des siècles, pourtant, bon nombre de théologiens considèrent le Lévitique comme l'un des livres les plus importants des textes sacrés, car une bonne compréhension de son message mettrait fin à toutes les sectes dégénérées issues du christianisme. Le Lévitique fait partie des livres de la loi rédigés par Moïse, ce qui affirme lui-même, puisqu'on y trouve plus de 30 fois la formule « l'Éternel parla à Moïse ». On sait aussi que les institutions du Lévitique, comme d'ailleurs la terminologie juridique des cinq livres de la loi, correspondent à celle des codes mésopotamiens du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, qui est aussi l'époque d'Abraham. Cependant, ils avaient toujours cours cinq siècles plus tard, au temps de Moïse. Le Lévitique s'ouvre alors que les Israélites font du surplace, marquant le temps au pied du mont Sinaï, qui est le lieu géographique où commence et finissent le livre. Les 12 tribus, 13 en réalité, se préparent à pénétrer dans le pays promis, le pays de Canaan, la Palestine. Après avoir délivré son peuple du joug des Égyptiens, l'Éternel est venu faire sa demeure au milieu de son camp, dans une sorte de grand temple appelé tabernacle. C'est là, pour Israël, un immense honneur, ainsi qu'une source de grande bénédiction. Mais à ce privilège de posséder Dieu si près de soi, s'attache aussi un réel danger, car ce peuple est souillé. Comment des hommes coupables peuvent-ils bénéficier de la présence au milieu d'eux d'un Dieu saint? Il faut pour cela que les Israélites acceptent d'obéir aux règles et commandements stricts que l'Éternel va établir, ce qui est le but des institutions qui sont mises en place dans le livre du Lévitique. « Je suis l'Éternel qui vous rend saint » est sans doute la phrase qui résume le mieux ce livre en quelques mots. Le Lévitique se présente donc clairement comme la suite de l'Exode qui se termine par le récit de la fabrication très minutieuse du tabernacle ainsi que sa mise en service. Le Lévitique fait le récit des cérémonies qui doivent être célébrées à l'occasion de l'entrée au service des prêtres en exécution aux ordres donnés par l'Éternel à Moïse. Le contenu du livre suit une certaine logique. Maintenant que le tabernacle est fabriqué, le Lévitique indique à quoi il va servir, ce qu'on doit y faire. La première section du livre explique le rituel sacrificiel avec tout d'abord l'entrée en fonction des prêtres qui est décrite par la description des cérémonies de leur investiture et du début de leur prise de fonction au tabernacle. Des règles de pureté rituelle précisent ensuite les conditions que l'Israélite doit respecter pour pouvoir rendre un culte à son Dieu. L'un des chapitres est entièrement consacré au rituel du jour le plus important et le plus solennel de l'année cultuelle juive, le jour des expiations ou Yom Kippour. Dans son ensemble, le Lévitique contient essentiellement des textes législatifs. Ceux-ci sont cependant insérés dans le cadre du récit de Moïse qui continue à faire le pont, le trait d'union, entre l'Éternel et son peuple. Le livre rappelle que les règles du culte tirent leur sens de l'arrière-plan historique de la nation qui a été fondée sur la base d'une alliance entre l'Éternel et Israël sur le mont Sinaï. C'est là, en effet, que le Seigneur du ciel et de la terre, en tant que suzerain, a établi un contrat avec la nation hébraïque, son vassal. Toutes ces règles complexes et contraignantes du Lévitique ont pour raison d'être la cohabitation du Dieu trois fois saint avec un peuple entaché de multiples fautes. C'est aussi ce qui fait que le thème central du livre est la sainteté. La quasi-totalité de ces 27 chapitres peut être considérée comme un énoncé des conditions que les Israélites doivent remplir afin d'être déclarés saints et acceptés par et pour l'Éternel. Mais qu'est-ce que être saint peut bien vouloir dire au XXIe siècle en Occident, dans une société sécularisée où il est interdit d'interdire et où tous les tabous sont tombés? En effet, les cheveux peints en bleu, des agrafes métalliques insérées n'importe où, le sexe sans condition, la recherche effrénée du plaisir et des sensations fortes, extrême, laissant tout le monde indifférent et l'œil éteint. Défendre la notion de sainteté est probablement le seul acte qui puisse encore choquer une génération blasée au maximum. Dire que Dieu est saint signifie qu'il doit faire l'objet d'un culte de la part de tous les hommes et qu'ils doivent avoir pour lui la révérence et la vénération qui sont dues à la divinité seule, tout comme les textes sacrés l'enseignent. La sainteté appelle le plus profond respect et l'adoration. La sainteté est un concept proche de celui du sacré. Or, on se tient à distance du sacré, en étant sur ses gardes et en s'inclinant tout bas, lorsque l'Éternel appelle Moïse au milieu du buisson ardent. Il lui a dit d'ôter ses sandales, car le lieu sur lequel il marchait était sacré du fait de sa présence. Que Dieu soit saint implique donc que je ne m'approche pas de lui n'importe comment. Il y a des conditions de pureté personnelle à remplir et des signes de la plus grande déférence à respecter afin de pouvoir se tenir en présence de Dieu et l'adorer. Déclarer saint quelqu'un, c'est lui assigner un rôle cultuel. Israël est saint dans le sens qu'il a pour vocation de rendre un culte à Dieu, mais chaque Israélite, en tant qu'individu, doit le devenir dans sa conduite personnelle, afin que le culte qu'il rend à l'Éternel soit acceptable. La sainteté est tellement importante que le livre de l'Exode rapporte que Dieu a dit à Moïse : Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites. Quant à ceux qui en Israël occupent la fonction de prêtres, ils sont saints de manière particulière. Ils doivent obéir à des règles plus strictes que le peuple parce qu'ils ont un rôle cultuel que ne peuvent jouer les autres Israélites. Pour commencer, ne sont pas prêtres ceux qui le veulent, car il faut qu'ils fassent obligatoirement partie de la famille sacerdotale d'Aaron, de la tribu de Lévi. Ensuite, ils doivent être irréprochables au niveau de leur sainteté personnelle à cause des fonctions qu'ils sont appelés à remplir auprès des autres Israélites. Ils peuvent offrir les sacrifices, faire l'aspersion du sang des victimes et accomplir diverses tâches à l'intérieur du tabernacle. Il a donc divers degrés de sainteté. Celui du simple hébreu, celui du lévite qui porte les objets sacrés, celui du prêtre qui officie lors du culte, et enfin, celui du grand prêtre auquel certains actes très spécifiques sont exclusivement réservés. Être saint, c'est donc respecter certaines règles afin de pouvoir se rendre agréable à Dieu. Parce que lui est saint, et que je ne le suis pas. Je ne peux vivre en sa présence ni m'approcher de lui comme je le ferais d'un être humain. Tel est le sens de la phrase à l'impératif qui, dans le Lévitique, est répétée à plusieurs reprises. Soyez saints, car je suis saint. À partir du sanctuaire, un autre mot pour le tabernacle, la sainteté doit se répandre dans toute la vie de tous les Hébreux. Le péché, ce mot désuet peut-être, mais dont la signification n'a pas changé. Le péché doit être continuellement contenu, refoulé, supprimé et expié par le sang d'un animal égorgé. Si le peuple prend à cœur cette parole « Soyez saints, car je suis saint », il y aura pour lui prospérité spirituelle et temporelle. Chez les peuples païens, les conditions de sainteté étaient avant tout rituelles. Mais l'une des particularités de la loi de Moïse est de faire une large place à des conditions d'ordre moral qui sont d'ailleurs rappelées et développées dans le Nouveau Testament. Les règles de pureté rituelle, souvent très contraignantes, sont un moyen de faire comprendre aux Israélites ce que représente pour Dieu leur impureté morale. Quand des lieux, des objets ou des personnes sont consacrés, cela veut dire qu'on leur assigne une fonction cultuelle par certains rites particuliers, comme asperger de sang le peuple ou oindre d'huile les prêtres, par exemple. Le but du Lévitique est donc dénoncer les règles qui permettent au peuple d'atteindre l'état de sainteté et par là de s'approcher de Dieu. Voilà pourquoi sacrifice, rituel, liturgie, instruction, purification, convocation, jour saint, observation, conditions en tout genre et avertissements remplissent ce livre. C'est ainsi que nous sont données toute une série d'impuretés qui ne peuvent être lavées que par des sacrifices et qui se produisent à des occasions ordinaires ou extraordinaires de la vie, comme le mariage, la naissance ou la mort par exemple. Toutes les souillures, de quelque ordre que ce soit, doivent être évitées autant que possible ou expiées par celui qui veut demeurer au bénéfice des institutions bienfaisantes en vigueur en Israël. Enfin, dans un dernier groupe d'ordonnances, il est question des solennités religieuses, du sabbat, des trois grandes fêtes annuelles, des années sabbatiques et du jubilé, des festivités qui sont destinées à entretenir la piété nationale en réveillant périodiquement en chaque Israélite le sentiment de sainteté dans lequel il doit vivre. S'il profite de ses instructions, la bénédiction divine le comblera de bien. Mais dans le cas contraire, la sainteté de son Dieu deviendra la cause de sa ruine. Toutes les prescriptions contenues dans le Lévitique maintiennent une stricte distinction entre le sacré et le profane, signe de la distance qui subsiste entre l'Éternel et son peuple. En définissant les conditions de sainteté, ce livre s'adresse d'abord aux Israélites afin de leur permettre de vivre leur relation d'alliance avec l'Éternel et d'accomplir leur vocation de lui rendre un culte. Mais comme je dois aussi être saint, le Lévitique me concerne, moi, homme occidental du XXIe siècle. Il faut bien voir que l'Israélite coupable, comme moi d'ailleurs, doit pouvoir s'approcher de l'Éternel sans l'ombre d'un doute. Il en est indigne. Mais Dieu lui donne le droit de se purifier en offrant le sang d'un animal sans défaut, et cela par les mains des hommes consacrés dans ce but. Ce sont les prêtres de la famille sacerdotale d'Aaron, de la tribu de Lévi. Il est vrai que certaines souillures proviennent de l'infirmité de la nature humaine et de la maladie. Mais au fond, de toutes ces impuretés particulières, il y en a une qui est générale et qui s'étend à toutes les activités et domaines de la vie et à tous les membres du peuple, y compris le grand prêtre, ce qui fait que tout ce que touche l'homme, y compris le tabernacle, devient impur. Il faut donc une grande purification générale et collective, qu'il faut répéter d'année en année. C'est celle qui s'accomplit le jour des expiations, aussi appelée Yom Kippour. Cette institution est le couronnement de toutes celles qui concernent les maintes catégories de purification. Le livre du Lévitique enseigne que le chemin qui va au Dieu des cieux passe obligatoirement par le sacrifice. La raison est que le peuple commet continuellement des fautes qui déshonorent Dieu et compromettent sa sainteté. La souillure, quelle qu'elle soit, oblige une réparation, elle le fait par le sang. C'est là le rôle des sacrifices qui ont avant tout une valeur expiatoire mais aussi substitutive puisque la victime prend la place de l'adorateur qui transfère sur elle sa culpabilité. Parfois, l'Israélite doit même poser ses mains sur l'animal en confessant sa faute. La valeur des sacrifices et ce qu'ils accomplissent est exprimée par l'expression « odeur apaisante pour l'Éternel ». Que l'on rencontre au moins 9 fois et même à propos de l'offrande végétale. Le fumet qui se dégage de la chair ou des offrandes brûlées monte vers l'Éternel et apaise sa colère envers les coupables. Le système sacrificiel enseigne donc que les fautes ne se réduisent pas par un acte qui peut être englouti dans le passé, le péché ne s'oublie pas et nécessite une expiation sans laquelle il ne peut y avoir réparation du dommage subi à la sainteté de Dieu. Mais sous le régime de l'Ancien Testament, cette réparation est très importante car elle est accordée à crédit, pour ainsi dire, en attendant le parfait sacrifice, celui du Christ. L'inefficacité des rites du système sacrificiel lévite, pourtant complexe et contraignant, est soulignée à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, et en particulier par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui écrit par exemple « Il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte le péché ». Cette parole est un grand coup de massue. Elle tombe comme le tranchant d'une hache. En outre, les sacrifices ne concernent que des fautes involontaires ou réparables, tandis que les crimes graves sont sanctionnés par la peine capitale. En parcourant le Lévitique, on est frappé par la quantité astronomique des sacrifices qui doivent être offerts par les limites de leur pouvoir et par le fait qu'ils n'ôtent pas vraiment la faute, mais la couvrent seulement de manière à ce qu'elle soit voilée aux yeux de Dieu, en attendant le sacrifice parfait de Jésus. Ce livre révèle les limites des institutions cultuelles établies par Moïse sur l'ordre de l'Éternel et la nécessité de moyens autrement plus efficaces pour régler véritablement et définitivement le problème du péché de l'homme et de sa culpabilité envers son Créateur. La solution est bien sûr la mort expiatoire du Christ. Le Nouveau Testament considère d'ailleurs tout le rituel établi par Moïse comme une préfiguration de l'œuvre de Jésus sur la croix. Vu sous cet angle, le Lévitique rehausse encore davantage la valeur infinie du Christ, car il accomplit une œuvre que le système lévitique ne pouvait réaliser. Jésus a réellement effacé une fois pour toutes la totalité des fautes passées, présentes et futures de tous ceux qui placent en lui et en lui seul leur confiance. Sa dernière parole sur la croix est un seul mot en grec et il traduit par « tout est accompli ». En fait, ce mot était utilisé pour dire qu'une facture était payée dans sa totalité. On peut donc dire que le dernier mot du Christ avant de mourir est « tout est payé ». L'un des thèmes récurrents du Lévitique est l'Holocauste. Dans ce sacrifice, la victime est immolée puis dépouillée de sa peau qui est donnée au prêtre tandis que tout le reste, la chair et les os, est entièrement consumé par le feu sur l'autel d'airain qui se trouve à l'entrée du tabernacle. L'Holocauste est la plus ancienne des offrandes à Dieu connues de l'homme. C'est d'ailleurs cette forme de sacrifice qu'Abel offrit à l'Éternel avant d'être assassiné par son frère Caïn. Noé, Abraham et tous les patriarches offraient des holocaustes. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une offrande totale. Ce qui est aussi la façon dont l'apôtre Paul décrit le sacrifice du Christ. Sous le régime de l'Ancien Testament, un holocauste était offert pour toute la nation d'Israël, matin et soir, et ils étaient doubles le jour du sabbat ainsi que pour les jours de fête. L'Holocauste accompagnait aussi d'autres sacrifices et pouvait être offert par n'importe qui, israélite ou pas. Trois catégories de victimes convenaient. D'abord, des bœufs ou des taureaux. Deuxièmement, des moutons, brebis, béliers ou agneaux, des boucs ou des chevreaux, et troisièmement des oiseaux, tourterelles ou pigeons. Le choix de l'animal était fonction des ressources de l'adorateur qui faisait l'offrande, mais aussi de sa générosité envers l'Éternel. C'est bien là que le bât blesse, à l'endroit du portefeuille. Pourtant, On peut prendre, par exemple, la pauvre veuve dont parle Jésus dans l'Évangile, quand il dit qu'elle a dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre.